ça vaut deux, trois cafés bien tassés.
Oui, 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 oui.
Le Sacre du printemps, oui. Un extrait, c'est le sacrifice, le titre de cette partie-là. Et on entendait l'Orchestre symphonique de Montréal, mais pas dirigé ici par Raphaël Payaré et Yabel Lurette. Mm-hmm. Alors, ça vous amène, Serge, à nous parler de l'histoire du Sacre du printemps.
Oui, oui. L'histoire de l'art est tissée de scandales, de tumultes et de désordres, que ce soit au théâtre, en musique ou opéra. Tout cela a régné le 29 mai 1913 au sein du Théâtre des Champs-Élysées à Paris, lors de la création du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky. Et 110 ans après l'éruption du volcan, ce qui est écrit, c'est bien, je trouve que l'image est bonne.
Il compare le Sacre du printemps à un volcan, à une éruption volcanique. Ouais. Ouais.
Alors, cette œuvre continue de nourrir un mythe fascinant. C'est un article de Mario Girard dans la presse plus d'hier. Et Mario Girard profite de la présentation cette semaine par l'Orchestre symphonique de Montréal sous la baguette de Raphaël Payaré pour revenir sur l'histoire de cette œuvre qui le fascine depuis de nombreuses années, écrit-il. Alors, pour raconter cet événement, il faut d'abord parler de Serge de Diaghilev, cet impresario de génie qui a eu une influence considérable sur les arts de la scène au début du 20e siècle. D'abord directeur des ballets russes du Théâtre Marinsky, il a créé sa propre troupe en s'installant à Monaco en 1911. Cet homme, qu'on craignait autant qu'on admirait, agissait en maître absolu auprès d'une cour d'artistes soumis, de comtesses folles et riches et de jeunes favoris. Diaghilev était fait d'audace et d'acier. Il s'entourait de talents constitués des mêmes matériaux. Michel Fokine, Stravinsky, Debussy, Léon Bax, Jean Cocteau, Éric Satie et plusieurs autres.
Un beau groupe.
Oui. En 1913, Diaghilev compose une saison des ballets russes pour diverses villes, dont Paris. Il commande à Stravinsky la musique d'un ballet. Le compositeur de L'Oiseau de feu et de Petrushka imagine une trame où il est question de rites païens au cours desquels une vierge, vouée au sacrifice, danse jusqu'à la mort, ou sorte de symbole de l'ancienne Russie.
Donc, c'est une musique qui a été commandée pour un ballet.
Oui. Lorsqu'il entend l'œuvre pour la première fois exécutée au piano par Stravinsky, Diaghilev n'est guère impressionné. Durant un passage en particulier, il demande au compositeur « Combien de temps ça va durer? »
Ah oui.
Et ce dernier lui réplique sèchement « Le temps qu'il faudra. »
Bon, c'est bien clair, répondu. Hein? Oui.
Diaghilev confie au danseur Nijinsky la chorégraphie de ce ballet comme il l'avait fait un an plus tôt avec prélude à l'après-midi d'un fauve. Cette idée n'enchante pas Stravinsky qui déplore, l'ignorance des notions les plus élémentaires de la musique de la part du danseur qui échafaude une chorégraphie exigeante et complexe. Présomptueux, capricieux et intraitable, Nijinsky fait damner Stravinsky et toute la troupe pendant des mois. Selon des documents, le tâtonnant chorégraphe aurait exigé 120 répétitions. Imaginez!
Ah, wow! Il était perfectionniste. Oui. Alors, suite et fin de cette chronique sur le Sacre du printemps, tout de suite après la pause qui s'en vient en quelques secondes. On se reporte au 29 mai 1913, soir de grande première du ballet Le Sacre du printemps, chorégraphié par Serge Diaghilev et composé par Igor Stravinsky.
Alors, un soir de première, évidemment, il y a toujours une certaine fébrilité qui règne dans les coulisses. Mais ce soir-là, sans plus. Après tout, la générale tenue la veille s'est bien déroulée avec un public composé de nombreux peintres, gens de lettres et musiciens, dont Ravel et Debussy.
Oh wow, le gratin.
Oui, mais par contre, certaines sources affirment qu'ils étaient plutôt présents à la première. Alors, on s'entend pas sur...
Qu'ils n'étaient pas présents à la première?
Non, là, c'est une générale qui a eu lieu.
Ah bon?
Alors, mais lui, le Girard nous précise que des sources disent qu'ils étaient plutôt ces deux-là à la première.
Ah, je pensais que vous nous parliez de la première. Là, vous nous parlez de la générale.
De la générale, oui. Ah. Oui. Non, excuse-moi, voyons. C'est ça. Non, c'est ça, la générale, c'est bien tenu, là. Là, je vais vous parler de la première.
OK. Bon.
Alors, le 29, c'est le gratin parisien qui accourt. Il faut savoir que cette soirée marque l'inauguration du Théâtre des Champs-Élysées. Alors, Jean Cocteau, présent à la première, prétend d'ailleurs que ce public mondain, harnaché de perles, d'aigrettes et de plumes d'autruche, on voit l'image, hein, jumelé à une œuvre de force et de jeunesse, est à la source de la mauvaise réception de l'œuvre. La salle plongée dans le noir, le chef Pierre Monteux monte au pupitre. Stravinsky, lui, est dans la salle. Sitôt les premières mesures, à la vue des costumes étranges et des danseurs qui appuient leurs joues dans une main, un spectateur lance à voix haute « Un docteur, s'il vous plaît! »
Oh!
Ouais. Des rires fusent, évidemment, puis un autre spectateur ajoute « Non, non, plutôt un dentiste! » Alors, c'est la débandade. Quand surgissent les premières dissonances et les rythmes chaotiques marqués par les désormais célèbres coups d'archet du sacre, c'est bien décrit. Le chaos ne se répand tout de suite dans la salle. Des spectateurs sifflent, certains se lèvent et quittent leur siège.
Wow!
Oui. Dans le but de calmer le public, Diaghilev fait monter et descendre l'éclairage du théâtre, mais cela met de l'huile sur le feu. Stravinsky rejoint Nijinsky en coulisses. Ce dernier est debout sur une chaise et hurle les mesures aux danseurs. Il dit « Je devais tenir Nijinsky par son vêtement, car il rageait, prêt à tout moment à bondir sur la scène pour faire un esclandre », raconte Stravinsky dans ses chroniques.
Un vrai freak show.
Oui. Tout aussi observateur et mauvaise langue que son ami, Marcel Proust, Jean Cocteau raconte « Debout dans sa loge, son diadème de travers, la vieille comtesse de Pourtalès brandissait son éventail et criait toute rouge « C'est la première fois depuis 60 ans qu'on se moque de moi. »
Oh, elle l'a pris personnel.
Personnel. Missia, certes, grande amie et mécène de l'impresario, assiste à cette bataille divisée entre trouble et fierté. Les hurlements d'enthousiasme, entrecoupés de sifflets à roulettes et de cris stridents, arrivèrent à créer un tumulte qu'Astruc, Gabriel Astruc, était le directeur du Théâtre des Champs-Élysées, dut se lever pour haranguer les spectateurs et rétablir un semblant d'ordre. Pris d'une crise de typhus, Stravinsky n'est pas allé à Londres entendre son sacre. Diaghilev s'empressa ensuite de retirer le spectacle du répertoire des ballets russes au motif qu'elle ne rencontrait pas la faveur du public. Un an plus tard, Pierre Monteux dirigea le sacre du printemps en version concert, donc pas de ballet. La salle fit un triomphe à Stravinsky par d'interminables ovations. L'œuvre conspuée entra dans le cénacle. Tout le mystère et la sublimité de l'art sont là. Grandiose, violent, sauvage et bouleversant, le sacre du printemps est tout cela. Depuis sa création, on ne cesse de s'interroger sur le rôle qu'il a joué dans la modernité. Ça a vraiment marqué un moment là, charnière. Là. Cette œuvre, certes révolutionnaire, a-t-elle bénéficié aussi d'une mythologie comme seul l'art est capable d'en fabriquer? Pour le savoir, il faudrait pouvoir retourner dans le temps et vivre ce qui s'est passé le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées. Alors, à la fameuse question « Quel moment de l'histoire aimeriez-vous vivre? » Que pensez-vous que je répondrai? C'est Mario Girard qui
parle. Ouais.
C'est intéressant de revenir comme ça, pouvoir assister à des scènes, grandes scènes de l'histoire.
T'sais? Oui.
Puis, ça a été sur le... Il se passe un moment extraordinaire de l'histoire, marquant de l'histoire. Puis,
merci, ouais. Mario Girard. Merci, Serge Bradet. J'avais entendu dire aussi qu'il y avait certaines femmes qui avaient des épingles dans leur chapeau et qu'elles étaient tellement scandalisées parce qu'elles entendaient qu'elles lançaient les épingles aux musiciens, aux danseurs dans la salle, sur la scène. Ouais. Mais je pense pas que ça se passe à l'OSM de ces temps-ci.
À Paris, ils ont une réputation un peu comme il y a peut-être une vingtaine d'années.
S'exprime.
Oui, il y a une chanteuse française des années 50 qui fait un retour sur scène populaire et dès les premières chansons, dans la salle, ça criait « Au vestiaire!
»
Méchant, hein?
Hey, pas de compromis, hein?
Ouais,
c'est
non,
drôle
non,
quand
non.
même. Alors, le Sacre du printemps, vous le rappelle, par Raphaël Payaré, le nouveau chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Montréal, est présenté à la Maison symphonique ces jours-ci. Ça a commencé hier et ça se poursuit jusqu'au 14 septembre. Vous nous avez donné envie de revisiter cette œuvre, Serge Bradet. Alors, la semaine dernière, Daniel nous annonçait le décès de Gary Wright. On va écouter son plus grand succès et tout de suite après, Daniel nous raconte sa vie, sa carrière.